I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家.
Bollywood star Vik Kapoor ki load sharing ki baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquigny, mais aussi Xavier Martinet, Clémence Alézard, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. On va poursuivre notre série consacrée au football et suite aux violences de ce week-end, Paris, Kiev, Le Caire, contenir la violence.
On a payé très cher pour venir ici et voir du foot, pour soutenir l'Angleterre. On n'est pas venu pour la violence, on est des fans de foot sincères, alors pourquoi on devrait être punis ?
Ils s'entraînent beaucoup à la bagarre. Toutes les équipes en Russie ont des supporters comme ça.
Par la conséquence, c'est que la fête est un peu gâchée et que moi je ferme mon établissement.
Ce qui s'est passé hier, c'est inadmissible. Et espérons qu'il y aura des sanctions.
C'est triste parce que je pense que c'est le sport, c'est quand même quelque chose de sain.
C'est vraiment une fête gâchée, quoi.
35 blessés, 3 supporters dans un état grave et 10 personnes en garde à vue. Des peines de prison avec mandat de dépôt ont d'ailleurs été infligées hier à des supporters anglais, français et autrichiens jugés en comparution immédiate. Aucun russe, trop rapide, trop bien organisé, a expliqué le procureur de la République de Marseille. Les violences tant redoutées en marge du match Angleterre-Russe ont donc bien eu lieu, malgré l'important dispositif policier annoncé et l'interdiction de stade de près de 3000 supporters étrangers. 9 personnes ont également été blessées du côté de Nice dans des affrontements entre supporters nord-irlandais et polonais. La France avait pourtant accueilli 200 spotters venus de toute l'Europe, ces physionomistes chargés de repérer les supporters les plus violents. Le hooliganisme, que l'on croyait quasiment disparu en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, a donc ressurgi ce week-end avec une ampleur inédite. 600 individus, russes et anglais principalement, ont été impliqués dans les débordements. Depuis le drame du Hesel en Belgique en 1985, qui avait fait, rappelons-le, 39 morts et plus de 450 blessés après l'effondrement d'un muret dans des affrontements, des mesures ont été prises un peu partout en Europe. Interdiction de stade, hausse des prix des billets, disparition des places debout ou encore prohibition de l'alcool. Les mesures ont fait leurs preuves et les violences ont considérablement diminué en 20 ans en Europe de l'Ouest, mais voilà que désormais une nouvelle menace vient du côté de l'Est. Alors, les débordements de ce week-end marquent-elles l'échec ou au moins les limites de ces politiques que nous apprennent les exemples britanniques et allemands en la matière ? Quels sont les risques d'une politique du tout répressif ? Incriminer l'alcool comme l'a fait Bernard Cazeneuve ne revient-il pas à dissimuler les vrais enjeux ? Et d'ailleurs, lesquels sont-ils ? Quels sont les liens aussi des hooligans russes, ukrainiens ou polonais avec les groupuscules d'extrême droite ? Et en quoi les spécificités culturelles produisent-elles des formes de hooliganisme différentes ? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher ce matin avec un invité qui est avec nous en plateau. C'est Patrick Mignon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Patrick Mignon. Vous êtes sociologue, en particulier évidemment sociologue du sport. Et puis vous avez co-écrit avec deux autres auteurs ce rapport, le livre vert du supporterisme, sous-titré « État des lieux et propositions d'action pour le développement du volet préventif de la politique de gestion du supporterisme ». C'était il y a quelques années maintenant. On parlera évidemment des politiques publiques qui ont été mises en place pour... contenir, pour empêcher, pour lutter contre ces violences, phénomène du hooliganisme. Dites-moi, Patrick Mignon, à la veille de la compétition, tous les regards, souvenez-vous, étaient braqués sur ces fameuses fan zones et sur le risque d'attentats djihadistes, qui d'ailleurs demeurent une menace réelle, bien sûr, mais c'est finalement le phénomène du hooliganisme qui s'est rapidement rappelé à nous. On pensait être bien protégé contre ce phénomène, on l'avait presque oublié. Chaque pays, et on va en parler tout à l'heure, avait mis en place des dispositifs plus ou moins efficaces, mais pour empêcher un certain nombre de perturbateurs de quitter leur pays. L'Angleterre, notamment, a retenu sur son sol un certain nombre de personnes, des centaines de personnes qui n'ont pas pu venir ici en France. Pourtant, Patrick Mignon, la fête a bel et bien été gâchée, en partie, en tout cas, par ces violences. Pourquoi ? On n'a pas pris cette menace suffisamment au sérieux ?
Oui, sans doute. Sans doute pas prise au sérieux.
peut-être aussi du fait, alors pas prise au sérieux, pas prise non plus au sérieux sans doute, si on veut, tous les éléments historiques et contextuels qui au cours d'une compétition va rappeler aux participants des choses qui se sont passées sur lesquelles il y a peut-être des revanches à prendre. C'est le cas de Marseille et du souvenir de 98 Angleterre-Tunisie. Peut-être aussi des effets de collaboration entre les polices, parce que tout à l'heure vous disiez les Anglais ont retenu sur leur sol les gens qui paraissaient les plus dangereux à retenir. Par contre, du côté russe, effectivement, on va se poser une question, je pense, importante, c'est-à-dire comment un contingent aussi important a pu arriver à Marseille. Voilà, et le troisième
et,
point...
Comment je vous pose la question, parce que effectivement, vous avez raison, du côté anglais, on a retenu, je le disais, des centaines de personnes, je sais plus combien c'est exactement, mais je crois que c'est même quasiment autour de 2000. Côté russe, on a indiqué, je crois, une trentaine de noms français. Voilà. Enfin, c'est ridicule.
C'est ça. Alors que bon, en gros, on sait, sans le savoir très, très précisément, mais qu'effectivement, il y a une très grosse agitation dans les stades russes depuis maintenant une bonne dizaine d'années, avec des groupes qui se qualifient eux-mêmes d'hooligans, avec des bagarres, etc. Enfin, toute une actualité hooligan. Mais là, dans l'affaire, non. Visiblement, la politique russe, je pense qu'on en reparlera
tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure avec Ronan Evernay.
Elle est très jeune. Elle est très très jeune sur la question. Mmh. Donc peut-être faut incriminer cette jeunesse de la politique anti-hooligan en Russie. Mais peut-être aussi d'autres raisons sur la façon dont fonctionnent ces groupes en Russie. Voilà. Donc là, il y a vraiment un vrai problème. Ensuite, il y a des aspects qui sont aussi très 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 important. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans des incidents comme ça, la violence est ce qui arrive. Je veux dire, dans ce qui arrive, il y a des gens qui viennent, ils la veulent pas, ou ils la rencontrent, et ils se trouvent dans des situations dans lesquelles ils rentrent dans des cycles de violence. Alors, par exemple, faut se poser des questions aussi sur la façon dont a été gérée l'arrivée des supporters anglais, par exemple, à Marseille. Bon, je pense que dans l'affaire, les Anglais n'étaient pas les hooligans, c'était des Anglais en goguette, comme on en a toutes les coupes du monde de football. Mais bien sûr. Qui voulait pas reculer en cas d'affrontement. Mais de cette façon, peut-être aussi les Anglais ont-ils été très, très ciblés, beaucoup moins les Russes. Mais voilà, encore la question sera pourquoi est-ce qu'on n'attendait pas les Russes? Alors que c'était un match à haut risque. C'est l'autre point, c'est quand même été identifié comme étant un match
à haut risque. On le savait. Patrick Mignon, au lendemain de ces affrontements, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé l'interdiction de vente d'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et les jours de match. Mais beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'était finalement pas l'essentiel et pour critiquer le dispositif sécuritaire qui n'aurait pas été à la hauteur. Et d'ailleurs, ces voix, on les a entendues beaucoup de l'Angleterre, mais aussi de la Russie. Quel regard vous portez justement sur la réponse, sur la riposte des autorités françaises?
La question de l'alcool, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle les paniques morales, c'est-à-dire qu'il y a des objets comme ça qui deviennent, sur lesquels on se focalise, et on pense que c'est ça le déclencheur. Or, ce qui paraît assez clair dans les témoignages, est-ce qu'on sait aussi l'histoire du hooliganisme? C'est-à-dire que chez les hooligans, il y a par exemple, chez l'élite hooligan, il y a aussi une diététique. D'une façon, pour être bon au combat, faut s'entraîner et ne pas se mettre dans les états, justement, d'excitation que provoque l'alcool, pour être froid et efficace. Bon, je pense que c'est ce que, d'après les témoignages, c'est aussi ce qui s'est dit des supporters russes. Donc, la question de l'alcool, je veux dire, elle confond, en fait, deux aspects, qui est d'un côté, les désordres sont du hooliganisme, alors que les désordres ont toute une composante, effectivement, alcoolisée, festive, un peu agitée, mais qui suppose des modes d'intervention qui sont adaptés à ce type de situation. Et deuxièmement, effectivement, des vraies stratégies de tension, des vraies stratégies de volonté d'affrontement. Bon, ça, on les connaît depuis les années 80, depuis que s'est dégagée une élite hooligan, d'abord en Angleterre, puis en Allemagne, puis en Hollande, et maintenant dans les pays.
Donc, si je comprends bien, finalement, on confond un peu tous les phénomènes, et la police, finalement, elle ne sait pas justement la distinguer. Visiblement, ces hooligans russes ont une responsabilité, on le voit, très importante dans ces violences. Il y a un certain nombre d'observateurs qui, sur place, ont expliqué que c'est l'arrivée de ces hooligans russes qui ont fait, d'une certaine manière, basculer les choses. Même si c'est vrai, il y avait des violences, mais d'un autre ordre avant cela. C'est en tout cas ce que rapporte par exemple Sébastien Louis, qui est historien, qui est spécialisé dans l'étude des supporters radicaux dans les colonnes du Monde, hier, je crois. Et ce qu'il dit, c'est qu'il aurait fallu, et on aurait pu finalement arrêter ces hooligans russes, on pouvait les identifier, mais ça n'a pas été fait. Pour quelle raison ?
Là, on se retrouve. Alors, par exemple, les Anglais l'ont très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont stoppé la politique de l'affrontement frontal. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas la police et les supporters, et qui sont censés être des hooligans. Il y a une différenciation des supporters, et donc des actions qui sont adaptées au type de supporters.
Ça, si on arrive à le faire, c'est parce qu'on a ces fameux spotters.
C'est parce qu'on a créé les spotters.
Vous nous expliquez ce que c'est exactement le rôle.
Les spotters, ce sont des policiers qui connaissent très très bien le milieu du football, qui ont donc été créés, qui sont des agents de renseignement et en même temps des agents de contact. À la fois, ils sont c'est de l'intelligence donc du souterrain et en même temps c'est du contact. Ils sont connus par les supporters.
C'est les médiateurs, d'une certaine manière.
Ils font office de médiateurs entre les supporters et eux et entre les supporters et la police locale quand il y a des placements à l'étranger. Mmh. Donc ça c'est une innovation.
Ils passent leur temps à faire des déplacements justement dans les compétitions.
Eux, ils le font au niveau de l'équipe nationale et au niveau des clubs. Mmh. Ça se fait à l'ensemble de l'échelle. Les Allemands ont des systèmes un petit peu identiques. Bon, voilà. Du côté français, ça s'est mis en place. On a essayé de le mettre en place, mais c'est beaucoup plus tardif. Les Français n'étaient pas nécessairement en cause. Ces spotters sont ceux qui peuvent effectivement dire voilà ce qui est dangereux, voilà ce qui n'est pas dangereux. Voilà comment distinguer. Du côté français, on reste dans une stratégie, une conception de l'ordre public. Ça a été relevé par deux collègues sociologues, Le Filleul et Fabien Jobard dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a une conception de l'ordre public en France qui est une conception toujours frontale d'opposition entre la police et les personnes qui créent du désordre. Or, autant pour une manifestation, les choses peuvent s'analyser de cette manière-là, lorsqu'on a affaire à des groupes comme les groupes hooligans, c'est un autre type d'intervention qui est nécessaire. Donc ça, les spotters, les unités plus légères qu'on peut avoir en Angleterre ou qu'on peut avoir en Allemagne sont assez efficaces. Par contre, là, les dispositifs qu'on connaît, CRS, garde mobile, dans la situation un peu de guérilla urbaine, sont un peu à côté de la plaque, si on veut.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, l'attitude trop répressive des autorités engendre de la violence. Et d'ailleurs, vous parliez de l'Allemagne. Je crois que c'est quelque chose qui avait été noté dans un rapport à la fin des années 90 du côté de l'Allemagne, un rapport d'expertise sur la culture des supporters et leur comportement qui mettait en garde justement sur cette réponse répressive. En gros, ce qu'il expliquait, ce rapport-là, et du coup, on a pris les mesures pour éviter cela, c'est plus la réponse policière est rude et répressive et plus les hooligans, justement, vont s'engager dans cette spirale de la violence.
Oui, c'est ce qu'on avait très bien analysé aussi. C'était très bien analysé pour l'Angleterre et pour l'Écosse, très bien analysé pour l'Allemagne. C'est-à-dire que la montée finalement en puissance des systèmes répressifs, barrières dans les stades, forces de l'ordre, etc., crée de l'autre côté aussi une escalade, d'où différentes manières finalement de mettre en place des politiques de désescalade dans la relation entre les forces de police.
Et notamment avec ces fameux spotters. Sauf que du côté russe, visiblement, ils étaient aux abonnés absents.
Ils étaient moins nombreux, semble-t-il, que du côté anglais, et ils ont peut-être agi alors après coup, on verra s'il y a des sanctions qui ont été prises contre des supporters russes qui étaient à Marseille. Mais ils ont agi après coup, soit en étant débordés parce que trop peu nombreux, soit en manquant de l'information qu'ils pouvaient avoir, soit parce que c'est aussi une stratégie, peut-être un choix, d'agir après coup.
Pour l'instant, aucune sanction du côté russe, sauf qu'on apprenait il y a quelques heures, dans la matinée en tout cas, qu'un certain nombre de supporters russes, je mets des guillemets à supporters, auraient été renvoyés chez eux. Il n'y a pas eu de charge retenue contre eux, donc mais renvoyés chez eux pour le moment. La question de la responsabilité de l'UEFA, on a également entendu évidemment l'UEFA, qui a menacé la Russie et l'Angleterre d'être exclus de la compétition. Je crois que le verdict est attendu dans la journée. Est-ce que ce serait une bonne mesure finalement et plus généralement, quelle responsabilité pour l'UEFA dans ces affrontements?
L'UEFA a la responsabilité en fait des grandes institutions sportives qui pensent sport, organisation des compétitions, donc qui ont leur logique, qui marche très très bien visiblement. Par contre, malgré les efforts faits par l'UEFA pour prendre en compte la question du supporterisme, à mon avis, les grandes compétitions, obèrent un petit peu cette volonté de prendre en compte, et on est dans le déroulement d'une compétition qui doit être parfaite du point de vue des critères d'organisation, de rentabilité, de marketing, etc.
Quoi? Ça veut dire que c'est pas son affaire?
Par exemple, le fait que ça se passe à Marseille avec la Russie, avec l'Angleterre, déjà rien que Marseille, Angleterre devait pour la FIFA, la UEFA poser un problème puisque c'était 98, le rappel d'affrontement entre
Tunisie.
Marseillais et anglais.
Oui, et c'était le match
du monde. Ouais. Voilà. Et donc ça. Donc on pouvait se dire, Marseille, c'est pas le meilleur endroit pour organiser un match. Et puis donc la Russie étant signalé un peu comme un pays à risque, c'était peut-être effectivement créé Angleterre-Russie, c'était les hooligans, les grands chefs de la hooligans des années 80-90 face à aux forces montantes. Donc il y avait un certain nombre de risques. Donc on peut penser que l'UEFA n'a pas, c'est des choses qu'elle n'a pas pris en compte. De même que le fait que les matchs qu'à Lens et Lille, à quelques kilomètres de distance, il y aura Ukraine-Pologne et Galles-Russie, va sans doute créer une situation très tendue dans le nord de la France.
C'est la première fois, Patrick Mignon, qu'il y a autant de pays d'Europe centrale et orientale qui participent à une Coupe d'Europe. Il y en a 7. Russie, Ukraine, Hongrie, Slovaquie, Pologne, République tchèque, Roumanie. Mmh. Donc évidemment, le nombre de hooligans venus de l'Est est inédit, potentiel. En réalité.
Le potentiel, plus que le potentiel est fort, c'est des nations jeunes du point de vue du hooliganisme. Ça s'est développé dans les années 90. Effectivement, dans des contextes en plus sociaux et politiques qui sont assez favorables à l'expression, soit du nationalisme, soit tout simplement, parce que c'est le hooliganisme, qu'est-ce que c'est ? C'est des jeunes hommes qui ont entre 18 et 35 ans et qui veulent mener une vie d'homme viril et fort et vivre la grande aventure. Et le hooliganisme, c'est une sorte d'aventure. On se déplace, on prend des risques, on a des blessures, on a des médailles, on a des réputations. Et voilà, en soi, c'est déjà un style de vie qui permet pour des gens de s'occuper assez largement pendant une partie de leur vie, de leur temps de semaine.
Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ces hooligans, justement, venus de l'Est, sont différents de ceux qu'on peut retrouver en Europe occidentale, et en particulier du côté de la Grande-Bretagne? Dans l'imaginaire, le hooligan, c'est un Britannique, enfin, souvent.
Oui, le hooligan, c'est un Britannique, et c'est un ouvrier, qui est une image qui a été vraie pendant un moment, mais qui a demandé à être corrigée. Non, je pense qu'il y a la grande différence qu'il peut y avoir entre Angleterre, Allemagne, enfin les pays d'Europe occidentale et les pays de l'Est, c'est qu'en fait, on est dans les pays de l'Est où la société civile, en fait, a été décomposée à l'époque soviétique, et dans lesquels, d'une certaine manière, les supporters apparaissent comme une force extrêmement active de la société civile. Voilà, dans lesquels des gens qui ont des choses à dire sur la société civile peuvent se retrouver et peuvent s'organiser pour le dire et le faire. Ça, c'est une grosse différence. Donc, en gros, les hooligans de l'Est ne sont pas socialisés, politisés ou intégrés à la vie politique et sociale comme ils ont pu l'être finalement au bout d'un moment en Angleterre et en Allemagne, parce que se sont mis en place toute une série de médiations entre le pouvoir politique, le local, les autorités du football, le monde, les groupements territoriaux qui pouvaient agir sur l'intégration, la domestication, la civilisation, comme on voudra, des supporters.
Vous parlez des autorités du football. Il y a le verdict qui devrait tomber aujourd'hui sur la Russie et l'Angleterre, savoir si peut-être potentiellement les équipes seront expulsées ou pas, c'est une question. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que la prochaine Coupe du Monde, elle sera organisée en Russie en 2018. Enfin, normalement, est-ce qu'il faudrait envisager justement de changer de pays organisateur ? Compte tenu évidemment de ce qu'on sait de ce phénomène du hooliganisme russe, qu'on semble découvrir. Hein.
Oui, qu'on semble découvrir. Là encore, je veux dire, on semble découvrir sans avoir une connaissance précise toujours de la situation. On sait qu'effectivement, on peut savoir à différents niveaux ce qui se passe en Russie et en quoi il y a danger. Mais je pense que la FIFA, quand elle prend une décision, ne prend pas des décisions par rapport à ce contexte-là. Elle prend des décisions par rapport au progrès du football. Et par rapport aux chances qu'un pays a d'organiser une belle Coupe du Monde par rapport à ses moyens financiers.
Donc une fois encore, c'est pas son affaire.
Non, c'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Éventuellement, elle découvre en cours de route. Elle découvre en cours de route et cherchera peut-être des adaptations, mais c'est pas son affaire. La FIFA, elle, son affaire, c'est de développer le football. Donc le Qatar, on développe le football au Moyen-Orient. Et puis c'est des pays qui ont de l'argent pour investir dans le football. La Russie, c'est un pays qui n'a pas eu de Coupe du Monde, jamais de Coupe du Monde. Donc c'est une manière de l'intégrer dans les grands pays ayant droit à organiser une Coupe du Monde.
Ok, du business avant tout, quoi.
Oui, c'est du business, c'est de la logique, le football avant tout, le business avant tout. Les deux se sont liés très fortement.
Dites-moi, donc on l'a dit, le hooliganisme, vous l'avez dit, a émergé en Angleterre, mais évidemment ensuite il s'est développé un peu partout en Europe. Dans notre imaginaire collectif, le hooligan, je le disais, c'est un Anglais, et accessoirement, peut-être qu'on se trompe, mais accessoirement d'extrême droite. On peut penser par exemple aux Headhunters, ces supporters, je mets une fois encore des guillemets, du club de Chelsea qui revendiquait cette affiliation à l'idéologie néo-nazie, qui affirmait des liens même avec le groupe néo-nazi Combat 18. Est-ce que le hooliganisme est toujours d'extrême droite ?
Non. Il y a une logique du hooliganisme qui est une logique d'affrontement, de violence et d'aventure. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, veut dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'extrême droite pour avoir envie de mener une vie d'aventure. Voilà. Bon, il se trouve que, malgré ses limites, de fait, l'extrême droite, du coup, s'est beaucoup inscrite dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ressort, finalement, d'identité, de revendication, de localisme et d'identité qui est assez fortement connoté à l'extrême droite, parce que notamment en équipe nationale, on va défendre la nation. Et en Angleterre, ce qui était le cas du hooliganisme, à une époque, chez les groupes qui étaient par exemple proches du BNP, le British National Party, avait fait une introduction très forte dans les années 80 en Angleterre, parce que là, il y avait les thématiques immigrés, irlandais, etc. Parce que l'Angleterre a aussi... il y a les Anglais et puis il y a les Irlandais. Et puis, il y a effectivement les populations d'origine immigrée, jamaïcaine, indienne, etc., qui aussi constituent une mosaïque.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur la planète football. Aujourd'hui, Paris-Moscou, Le Caire, contenir la violence. On est avec Patrick Mignon. On va prendre la direction de la Russie. Hier, un haut responsable de l'Union russe du football, Igor Lebedev, a affirmé son soutien aux supporters russes. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec le fait que les supporters se battent, a-t-il écrit sur Twitter. C'est même plutôt le contraire. Bravo les gars, continuez. Alors visiblement, Lebedev se réjouit de voir ces violences qui, selon lui, ne sont pas le fait de supporters, mais qui sont la conséquence de l'incapacité des autorités françaises à organiser cet euro. Pourtant, le ministre russe des Sports, lui, a très clairement condamné les violences et dénoncé, je cite, le mauvais comportement des hooligans russes. On va accueillir un nouvel invité avec nous, Ronan Evin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant-chercheur à l'Institut français de géopolitique, à l'Université Paris 8. Vous êtes un spécialiste du supporterisme russe. Vous écrivez d'ailleurs une thèse sur les enjeux géopolitiques du football en Fédération de Russie. Alors, Igor Lebedev, il est député à la Douma. C'est le fils de Vladimir Jirinovski, le chef de file du LDPR. C'est un homme qui s'est plusieurs fois présenté à l'élection présidentielle, rassemblant quand même autour de lui à peu près à chaque fois une dizaine de pourcents des voix. Et surtout, si ce LDPR, le Parti libéral-démocrate de Russie, se présente comme centriste, en réalité, c'est quand même un parti plutôt d'extrême droite, populiste, ultranationaliste. Alors, pour étayer les choses, quelques éléments programmatiques. La priorité aux Russes pour le travail, l'immunité judiciaire pour les ecclésiastiques, la castration chimique pour les pédophiles, l'interdiction des partis politiques causant le désordre, je mets des guillemets, l'union de la Russie avec la Biélorussie et l'Ukraine, on voit bien quand même le programme très nationaliste qu'il y a derrière. Qu'est-ce que le soutien de Lebedev aux auteurs russes de ces violences nous dit sur les liens entre le hooliganisme russe et l'extrême droite? C'est quoi les liens, les rapports entre le monde du hooliganisme et les mouvances nationalistes russes, Ronan Evin?
Les déclarations de la sortie médiatique de M. Lebedev doivent être prises pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est tout simplement une provocation, qui est quelque chose d'assez courant pour le parti LDPR. On n'est pas sur quelque chose d'un parti qui soit très sérieux. On est bien effectivement sur le parti le plus à l'extrême droite du spectre parlementaire russe. Mais on est là bien sur une provocation, une bêtise qui fait partie du discours officiel russe suite aux événements de Marseille. Les liens de Lebedev et de Jirinovski avec une partie des supporters sont anciens. Jirinovski est lié à une des organisations de supporters russes. Mais encore une fois, on est bien là dans une communication qui n'est pas concerté, puisque de l'autre côté, on a les médias officiels russes qui, depuis hier, commencent à dessiner une explication assez inattendue, qui est celle d'une provocation menée par des agents non identifiés pour discréditer les supporters russes.
Oui, d'accord. On peut dire que finalement, c'est quelque chose de l'ordre de la récupération politique, cette affaire?
Voilà,
je parle de la sortie de Lebedev.
Les liens entre politique et supporterisme en Russie sont de toute façon... de manière générale, de l'ordre de la récupération. C'est-à-dire qu'on a deux types de rapports. Soit un rapport qui est en partie financier, monétaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité pour une partie de la classe politique russe d'utiliser, de mettre à profit leurs relations avec les supporters pour avoir simplement une sorte de police privée. C'est quelque chose qui était très courant dans les années 2000, qui l'est un petit peu moins maintenant. Et on a également des phénomènes similaires. Alors, je n'ai pas entendu le début de l'émission, mais je suppose que vous l'avez évoqué. C'est un phénomène similaire à ce qui a pu exister ailleurs en Europe, c'est-à-dire une extrême droite qui et une droite dure qui tente de récupérer un mouvement qui reprend, enfin qui prend, qui utilise des codes sociaux, culturels, vestimentaires, qui sont proches des leurs. Donc en Russie, on a un phénomène du hooliganisme qui est vraisemblablement la sous-culture urbaine la plus importante à l'heure actuelle, et qui donc a un intérêt politique certain. Et on a donc une classe politique d'extrême droite qui tente de récupérer cette mouvance. L'exemple le plus évident est celui de, donc des émeutes qui avaient il y a quelques années qui avaient suivi la mort d'un supporter du Spartak Moscou suite à une bagarre de rue avec des jeunes caucasiens. Les émeutes avaient eu lieu à proximité du Kremlin, donc c'était une vraie démonstration de force de la part des supporters russes avec 5000 personnes réellement au pied du Kremlin, des affrontements avec la police. L'extrême droite russe n'était pas présente, ne tirait pas les ficelles, par contre était à tenter, notamment par une communication a posteriori, de récupérer les incidents. Donc, pour résumer, on a donc une mouvance du hooliganisme, du sportivisme actif de manière générale, qui est beaucoup plus puissante que l'extrême droite russe, qui est relativement faible, du moins les partis politiques qui s'identifient comme tels. Et donc, la tentation de récupération est forte de la part de ces...
Ronan Evin, encore une question, puis je passerai la parole à Patrick Mignon. On essaye de comprendre un peu ces liens entre le monde du hooliganisme et, disons, le nationalisme russe. Sauf que quand on a dit ça, on dit déjà une grosse bêtise, parce que il n'y a pas un nationalisme russe. Il y a de multiples visages. Il y a les nostalgiques de la Russie impériale, il y a ceux qui regrettent la splendeur des temps soviétiques. On a aussi les panslavistes qui préconisent l'union de tous les peuples slaves. Donc on retrouve, évidemment, beaucoup de nationalisme au pluriel. Est-ce qu'on retrouve, justement, ces différentes nuances chez les hooligans russes, ou est-ce qu'ils se sont construits d'une certaine manière une forme de nationalisme bien définie, et lequel ?
Alors, on retrouve, de fait, ces différentes chapelles. Le problème aussi, c'est que quand on parle d'extrême droite, selon notre définition, une grande partie de la population russe pourrait être qualifiée comme tel. On a de toute façon donc généralement un patriotisme très marqué chez les supporters actifs des grands clubs russes, avec dans le passé un intérêt faible pour l'équipe nationale de certaines équipes, mais qui est visiblement en train de se redévelopper. Mais on a bien, effectivement, tout le spectre du nationalisme russe qui se retrouve chez ses supporters.
Mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui prédomine ? Parce que vous dites, je vous cite, que les supporters russes tendent à considérer les supporters ukrainiens, biélorusses, lettons, estoniens ou lituaniens comme faisant partie d'un même ensemble structurel. Donc, à lire cette phrase, on a le sentiment que finalement, il y a quelque chose du sentiment panslaviste derrière tout ça.
Oui, effectivement, panslavique, ou qui se rapproche peut-être plus d'une forme d'attachement à une suprématie blanche. C'est aussi cette unité dans les pratiques, entre les groupes de des différents pays cités. C'est aussi parce que la pratique du supporterisme, comme il existe en Russie, donc cette forme très spécifique d'hooliganisme qui s'est développée, se retrouve en fait dans l'ensemble des pays. De ces pays de l'ex-bloc soviétique.
Non, mais parce que dans ce cas, à lire cette phrase, finalement, on se dit qu'on n'a rien à craindre, par exemple, d'un éventuel Russie-Ukraine. Ils ne sont pas dans le même groupe, soit, mais s'ils se rencontraient, on n'aurait rien à craindre de ce genre de rassemblement. Finalement, les hooligans russes et les hooligans ukrainiens pourraient s'entendre, en tout cas ne pas forcément aller à l'affrontement.
Alors les liens existent et sont forts, sont anciens. Ce qui ne veut pas dire que les affrontements n'existent pas. Ils existent, ils sont organisés dans des lieux discrets, en forêt, dans ce genre d'endroit. On est là, cette unité qui existe entre ces différents groupes, elle est au niveau des pratiques, c'est-à-dire qu'on a une même définition, considération du supporterisme dans ces différents pays. Quant au match, un éventuel match Russie-Ukraine, ça serait un match à risque du fait de potentielles manifestations politiques qui pourraient se dérouler autour, sachant que il faut néanmoins noter que sur cet Euro et sur le premier match de l'Ukraine qu'on a pu voir à Lille, les franges dures des supporters ukrainiens n'étaient pas présentes. Donc je doute qu'on les voit d'ici la fin de l'Euro.
Patrick Mignon, réaction.
Réaction. Alors, j'ai envie de réagir sur deux choses sur l'autonomie d'un côté de l'extrême droite et des hooligans ou des ultras. Enfin, ça dépend comment dans quel pays on se trouve. Parce que l'extrême droite fait son travail d'extrême droite. Donc, elle développe ses thèmes dans la grande variété des petits d'extrême droite. De l'autre côté, les ultras ou les hooligans développent aussi leurs thèmes, qui est lié beaucoup plus à la cohésion de groupe, la virilité, le territoire, la défense de l'honneur, etc. Qui, du coup, retrouvent des échos. L'extrême droite va très vite trouver parmi ces gens-là un potentiel. C'est complètement le thème que nous défendons. Le sol, l'honneur, etc., c'est tout à fait nous. Donc, ils vont faire un travail d'infiltration, ils vont essayer de domestiquer ces hooligans et les utiliser. L'instrumentalisation, par exemple, des hooligans comme service d'ordre. Ce sont effectivement des choses qu'on va trouver. Mais faut bien voir les choses beaucoup plus comme une espèce, si on veut, de bouillonnement du côté de l'extrême droite, qui part un peu dans tous ses sens pour définir ce que c'est que la bonne politique de l'autorité. Et deuxièmement, les hooligans qui, eux, sont faits aussi d'individus qui, à travers cette cohésion liée à la cohésion hooligan, par nécessité de groupe et de principe, elle-même va être plus ou moins attirée à certains moments pour participer à des actions qui vont paraître être des éléments qui sont importants pour leur logique.
Ronan Evin, toute dernière question. Quelle est la posture, parce qu'on a beaucoup pointé du doigt les manquements de la Russie, on a rappelé qu'il y avait seulement une trentaine de noms qui avaient été transmis à la France, des noms d'individus, disons, à risque. On a dit aussi que peut-être il manquait du côté de Marseille de spotters russes. Quelle est la posture des autorités à l'égard du phénomène hooligan? Est-ce qu'on essaye de contenir, de maîtriser, et si oui, comment?
Alors, pour justement rebondir sur ce que disait Patrick, on a dans la culture, dans la société russe, une tolérance assez importante vis-à-vis de ces pratiques, de cette masculinité exacerbée, qui est plutôt quelque chose qui est socialement plutôt acceptable. C'est-à-dire que les supporters extrêmes russes généralement le font à visage découvert. Leur famille, leurs employeurs ont connaissance de ces pratiques, donc c'est quelque chose qui socialement est tout à fait acceptable. Sur la réponse des autorités russes, elle a été la suivante. Fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, les stades russes étaient relativement dangereux, c'est-à-dire qu'on avait énormément d'affrontements dans les stades et à proximité. Les hooligans, les supporters actifs formant à l'époque déjà un groupe social extrêmement important, structuré, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu dans la société civile russe. Il a semblé dès lors compliqué d'avoir une approche uniquement répressive. Et donc l'approche des autorités russes a été la suivante. C'est celle de favoriser une concentration des pratiques sur le phénomène des free fights, c'est-à-dire des affrontements en zone neutre et à nombre égal. Et donc c'est aussi à partir de là, et la contrepartie étant bien sûr certaine sécurité dans les stades. C'est à partir de là que la pratique de ces free fights, de ces combats codifiés en zone neutre, s'est développée. Ça a aussi eu un rôle prépondérant dans la constitution d'un véritable supporterisme à la Russie. Donc, on a eu cette approche et qu'on peut retrouver la même dans de nombreux pays de foot et qui est similaire aussi avec la lutte contre le racisme qui est menée par de nombreuses fédérations et clubs. C'est-à-dire que il n'y a pas de lutte réelle contre la problématique. L'idée, c'est simplement
de déporter le phénomène, en réalité.
Déporter le problème.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Ronan Evin, d'avoir été avec nous ce matin. Pour comprendre, finalement, cette réponse des autorités publiques, Patrick Mignon, il faut faire un petit peu d'histoire. 29 mai 1985, Bruxelles reçoit la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, d'un côté Liverpool, de l'autre la Juventus, et au milieu, des grillages, des grilles de séparation qui, sous le poids des supporters, vont s'effondrer.
On parle d'une Europe unie, mais quelle Europe? Depuis ce matin, les Anglais se comportent comme ça. Et la police belge, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'avez filmé, j'espère. Vous avez tout filmé et montré qui a commencé. Ces gens ne méritent pas de jouer au football.
Et moi, je vous dis un truc, peut-être les Anglais ont gagné 11 à 0. On se mord à 0, peut-être.
Il y a des morts, monsieur.
Dégueulasse. Les flics, mais c'est pas possible.
Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais ou en italien? Il y a des morts, monsieur. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse.
Le scandale, c'est qu'il avait des blessés par terre, dans la terre. Ouais. Et les Anglais...
Ils sont venus, ils ont frappé.
Oui, il a marché. Avec les bouteilles,
ouais. Ils l'ont fait exprès.
Hai visto tu? Les Anglais ont, oui, 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 oui.
Vous retournerez revoir une Coupe d'Europe?
Non, jamais. Fini. Jamais. Pas seulement pour moi, pour tous les Italiens qui étaient à Bruxelles.
Le drame du Heysel, 29 mai 1985, bilan 39 morts, plus de 450 blessés. Lors du procès, 14 supporters britanniques vont être condamnés à 3 ans de prison. C'est un événement évidemment dramatique, Patrick Mignon, qui va faire prendre conscience à l'ensemble de l'Europe de ce problème, ce phénomène du hooliganisme. C'est d'ailleurs du côté justement de la Grande-Bretagne, de là où viennent justement les supporters de Liverpool, que les choses vont commencer, qu'on va prendre les premières mesures.
Alors, le premier pays qui, celui qui est vraiment fondateur, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a son premier drame de hooliganisme en 79, lors d'un match. Et à partir de là, se met en place toute une démarche qui va finalement se concrétiser par le dispositif dont on parlera sans doute plus tard. Mais effectivement, pour l'Angleterre, il y a un traumatisme. Alors, en même temps, pour l'Angleterre, on discute beaucoup du fait de savoir si c'est le Heysel qui a été le point de départ ou c'est Hillsborough. Parce que qu'est-ce qui se passe le Heysel? Ça se passe en Belgique. Les Italiens sont impliqués. Il y a eu des défaillances du service d'or. Le stade n'était pas conforme. Enfin, l'UEFA, je dirais, a aussi mal géré la situation. Donc, on est dans un domaine dans lequel effectivement on peut partager la responsabilité. Mais l'Angleterre est exclue des coupes d'Europe, de compétition, les clubs anglais, l'équipe nationale anglaise. Bon, et je dirais l'Angleterre va travailler, elle, de son côté, sur l'analyse répressive du phénomène. Bon, okay, ça, c'est quand même une certaine importance par rapport à ces matchs de championnat. Hillsborough va être...
C'est quelques mois après, hein, rappelez-moi.
C'est quelques années après, on est en 89. Voilà, 89, c'est une demi-finale de Coupe d'Angleterre. 96 personnes qui meurent, alors étouffées par les grillages, enfin c'est quelque chose d'assez horrible. Et là, à ce moment-là, c'est là où les choses vont se poser différemment, parce qu'on va remettre sur le terrain la question du maintien de l'ordre dans les supporters et de l'attitude de la police à vis des supporters, parce qu'on a considéré que le procès qui a eu lieu récemment avec reconnaissance de la responsabilité de la police dans les morts de Hillsborough va effectivement cheminer pour cette reconstruction ou construction d'une politique anglaise du hooliganisme et du football.
D'ailleurs, c'est justement après Hillsborough que on met en place ce spectateur Bill, c'est-à-dire cette sorte de carte d'identité pour les spectateurs des matchs de foot.
Il y a la carte d'identité qui va être dans le passé, parce que les Anglais n'aiment pas beaucoup les cartes d'identité, donc c'est pas pourquoi les footballeurs, les supporters en auraient et pas les Anglais. Donc il y a eu pas mal de discussions là-dessus, mais surtout le principe des places assises.
C'est avant 89, ça.
Non, c'est le rapport Taylor.
D'accord.
C'est le rapport Taylor qui est le rapport Taylor. Ça aussi, c'est un point qui, je crois, qu'il faut retenir, et ça peut être des leçons pour tout pays qui s'intéresse à la question. En Allemagne comme en Angleterre, on va demander un rapport à une autorité indépendante et qui va faire un état des lieux de la question. Et le rapport Taylor est très très important parce qu'il va à la fois analyser, faire une balance entre qu'est-ce qui revient de la responsabilité des supporters, qu'est-ce qui revient de la responsabilité des clubs ou de la police dans l'affaire. Et à partir de là, faire des préconisations, notamment concernant les places assises, concernant la suppression des grillages, concernant des politiques plus adaptées à la relation avec les supporters, liées à d'autres rapports sur les émeutes urbaines. Le rapport Scarman, qui est aussi un rapport sur les émeutes qui avaient lieu à Lyon, à Londres, à Brixton, entre les jeunes Jamaïcains et la police, pour effectivement mettre en évidence qu'il faut sortir de cette logique frontale d'affrontement pour faire un travail beaucoup plus différencié d'action vis-à-vis des désordres urbains ou footballistiques.
Dites-moi, Patrick Mignon, vous parlez de rapport, et en particulier de ce rapport Taylor du côté de la Grande-Bretagne. Vous avez participé, vous, à ce rapport, ce livre vert du supporterisme, état des lieux et propositions d'action pour le développement du volet préventif de la politique de gestion du supporterisme. C'était en octobre 2010, alors c'est plus récent que le fameux rapport Taylor, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous en disiez? Et surtout, est-ce que vous avez été entendu?
Alors... Qu'est-ce qu'on en disait? On disait globalement, si en France on veut maîtriser la violence quand elle existe, qui est un niveau très très faible en France. Hein. Si on n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Hollande, qui sont à l'époque, ou même en Italie, qui sont vraiment les foyers d'extrêmes affrontements entre supporters, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, mais si on veut éviter ce type de problème, il faut avoir une politique, soit une politique qui mette ensemble à la fois la police, parce que bien évidemment ce qui est violence, ce qui est raciste, doit être condamné comme tel, distinguer parmi les supporters ceux qui sont effectivement les porteurs d'une violence dangereuse pour eux-mêmes, pour les autres et pour les gens qui risquent d'être des victimes. Le collatéral de ces affrontements, les distinguer d'autres groupes de supporters, donc que la police doit faire ce travail, que les clubs doivent être impliqués, parce que les clubs attirent des spectateurs, donc ils doivent être impliqués à travers eux-mêmes des dispositifs, les collectivités locales doivent être impliquées parce que elles sont contentes d'avoir un club de foot, soit pour une ville, soit pour une région, et qu'à ce titre-là, elles ont une responsabilité sociale, bien évidemment, les autorités du football aussi, parce que elle aussi, elle gère une compétition et que la façon dont elle gère la compétition, dont elle conçoive le sens de la compétition par rapport à leurs intérêts en tant que fédération ou par rapport à la société dans laquelle ça se déroule, la société française, elles ont aussi à prendre responsabilité.
Donc, ça, c'est pour la théorie. Maintenant, dans la pratique, est-ce que vous avez été entendu?
Je dirais...
Vous ne diriez pas du tout?
Non. Pas du tout, si, parce que... Il faut voir que la question qui va se poser en France est la suivante. 94, incident au Parc des Princes. La Ligue de football, à l'époque, il y a quelqu'un de la Ligue de football qui est Le Graët, qui est président de la Fédé aujourd'hui, bon, et qui est un vice-président de la Ligue de football, qui essaie de créer une commission supporterisme, à laquelle je participe en quelques années, qui va faire venir un certain nombre de personnes pour réfléchir à la question. 98 Coupe du Monde, et après, ça s'arrête. Et le processus de réflexion s'arrête. Alors effectivement, on retire les grillages, on met en place la vidéosurveillance, etc. La police, petit à petit, va créer des unités un peu spécialisées pour le renseignement, pour l'intervention. Mais cette question, finalement, de la convergence du répressif, du social, pour dire les choses très largement, ou même du politique, c'est-à-dire de l'inscription de cette supporterisme dans une signification plus générale, sur un territoire, qu'il soit national ou local, toutes ces choses-là ont été mises de côté.
Pour quelles raisons? Est-ce qu'on peut poser l'hypothèse suivante, que finalement, la réflexion des autorités publiques, c'est de se dire, on va s'occuper du volet répressif, et puis on va laisser le volet social au club. Et en gros, la réponse des clubs, qui ne savaient pas véritablement faire, ça a été de changer, finalement, le public, les publics qu'on retrouve dans les stades, et comment? En augmentant le prix des billets. Vous changez la sociologie des spectateurs assez facilement.
Vous avez raison, vous avez la politique française du sport est une politique dans laquelle une vision du travail entre d'un côté l'État, soit sous son aspect sécurité, police, ordre public, soit son aspect social. La fédération, elle, garde un volet sportif, grande compétition, honneur national dans les compétitions et développement de la pratique sportive. Et lorsque arrivent des problèmes qui semblent lier les deux, chacun se renvoie la balle. Et le football dit non. Ces gens-là, c'est pas des supporters, c'est pas des gens du football. Vous vous en occupez. Et la police s'en occupe à sa manière, qui n'est pas totalement adaptée à cette nouvelle situation.
C'est la réponse totalement inverse à ce qu'a choisi l'Allemagne, dont vous nous disiez tout à l'heure qu'elle était pionnière en la matière, avec cette, évidemment, culture du consensus dont on fait souvent l'éloge du côté de l'Allemagne. Mais c'est exactement l'inverse.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, je peux prendre deux exemples qui, pour moi, sont vraiment sont significatifs et, d'une certaine manière, dramatiques. Vous téléphonez à la Fédération allemande de football, et vous dites, je veux parler à quelqu'un qui s'occupe des supporters. Et on vous dit, oui, il y a quelqu'un qui s'occupe des supporters, et là, vous allez discuter, programme, politique, socio-éducatif, etc. Vous téléphonez à la française de football, et vous avez, supporters, marketing, sécurité. Voilà. La question supporter en tant que telle, elle apparaît, marketing, c'est le Club France des supporters, etc. Mais pas en tant qu'acteur du football. Deuxième aspect. En 98, vous vous souvenez qu'à Lens, il y a les incidents où le gendarme Nivelle est massacré par des Allemands. La Fédération allemande de football, la FIFA, la famille du gendarme Nivelle décident de créer une fondation à laquelle la Fédération française de football est associée. On est en 98, on est en 2016. Cette fondation qui a pour tâche de réfléchir et de mettre en accord les deux fédérations, la FIFA et la UEFA par contre-coup, sur ces questions de réflexion sur l'ordre public dans les stades, sur la place du football, n'a pas en France de fonctionnement au niveau tel qu'il a en Allemagne, où il y a une véritable prise en compte de cette fondation et de son travail.
On va quitter l'Europe, Patrick Mignon.
إلى اللقاء.
février 2012, des violences éclatent autour d'un match de foot à Port Saïd en Égypte. L'équipe locale d'Al-Masri contre celle d'Ali avait fait 72 morts, plusieurs centaines de blessés. Janvier 2013, d'ailleurs, 21 personnes avaient été condamnées à mort par la justice égyptienne. Alors si les autorités ont présenté ces violences comme un affrontement entre supporters qu'a mal tourné, les ultras, eux, y ont vu une vengeance des autorités contre les supporters à qui elles reprochaient leur implication dans l'insurrection populaire. Bonjour Suzanne Guibril.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous travaillez sur le supporterisme égyptien. D'ailleurs, j'indique pour nos auditeurs que vous avez participé à ce livre, Soutenir l'équipe nationale de football, enjeux politiques et identitaires. Vous avez écrit un article, notamment, Suzanne Guibril, intitulé « Du stade à Tahrir, libération et utilisation de l'espace public par les groupes de supporters en Égypte révolutionnaire et post-révolutionnaire ». Vous appuyez sur une dizaine d'entretiens conduits auprès de supporters des deux principaux clubs du Caire, Al-Ahly et Zamalek. Vous dites que dès le soulèvement populaire de 2011, les supporters de football étaient présents sur la place Tahrir. Ce que vous dites, c'est que finalement, dans ce régime autoritaire où la revendication politique était quasiment impossible, le stade était devenu un lieu où justement il était possible d'exprimer des opinions, de faire sortir un petit peu toutes ces frustrations. Donc ces supporters avaient l'habitude finalement de s'opposer à la police, d'organiser des violences. Ils connaissaient finalement depuis longtemps l'art de la désobéissance civile. Quel a été leur rôle précisément dans les émeutes de la place Tahrir? Et est-ce que ces ultras, on va les appeler comme ça, existaient en tant que supporters de foot, en tant que groupe?
Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a eu plusieurs étapes dans leur implication, en tout cas dans les événements de la Révolution. Alors, les ultras, en tant que groupe de supporters de football, existaient déjà avant, mais de façon non organisée. C'est en 2007, en fait, qu'ils se sont organisés de façon officielle. Et donc c'est un groupe qui est assez jeune. Et au moment des soulèvements en 2011, ce qui s'est passé, c'est que les groupes qui ont organisé les manifestations ont fait appel au groupe d'ultra via les réseaux sociaux parce qu'ils étaient connus pour leur confrontation avec les forces de police et leur expérience en fait dans les combats de rue, parce que à la sortie des matchs de football, il y avait énormément de clashs qui éclataient entre les forces de police et les groupes ultra. Donc une demande avait été faite pour qu'ils puissent défendre simplement les manifestants. Appel auquel ils ont répondu, donc ils sont arrivés dans la soirée du 25 janvier. Mais c'était dans un premier temps vraiment simplement dans l'idée de défendre contre les violences policières et non pas de participer en tant que groupe impliqué politiquement dans le conflit.
D'accord, il n'y avait pas d'engagement politique derrière ça.
Non, ça émet vraiment un point d'honneur et ils le répètent toujours dans les entretiens, que ce soit avec moi ou à travers les médias, leur implication n'était pas d'ordre politique. C'était simplement une volonté de participer dans la protection et le maintien de la sécurité des manifestants. C'était pas du tout une conviction politique en tant que groupe. Maintenant, évidemment, certaines personnes étaient aussi impliquées dans d'autres groupes politiques. Et donc, à ce moment-là, leur participation aux manifestations du 25 janvier était faite à travers leur appartenance civile, non pas en tant que supporter ultra.
L'autre domaine, Suzanne Guibril, dans lequel les ultras se sont illustrés, c'est le street art, où à travers des graffitis, les ultras remettaient en cause le pouvoir ou alors le dénonçaient. Là, d'ailleurs, il y a peut-être un engagement politique plus fort, d'ailleurs, parce qu'on est au-delà de la violence.
Voilà. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement dans leur implication. Alors, à partir de février 2012, donc vous en aviez parlé.
Justement, à partir des émeutes et du drame de Port Saïd.
Voilà, exactement. En fait, ils ont vu dans le drame de Port Saïd une attaque personnelle contre leur groupe. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se mobiliser de façon un petit peu plus politique cette fois. Donc, ils ont voulu que justice soit faite et ils se sont mobilisés pour accuser le gouvernement tout simplement d'avoir perpétré en fait ce massacre. Et ils ont notamment utilisé les graffitis, non seulement autour du stade de Ahli ou de Zamalek, mais aussi sur les murs qui entouraient la place Tahrir. Il y a notamment des images des différents martyrs qui sont peints sous forme de fresques tout autour de la place et tout autour des rues avoisinant les stades ou la place Tahrir.
Il y a les martyrs et puis il y a aussi cette fresque très célèbre, Brotherhood in Blood, après justement les événements de Port Said, qui est une sorte d'hymne à l'international ultra et qui est en référence à l'accord de paix, je vais mettre des guillemets, mais l'accord de paix négocié entre les deux clubs rivaux, Ali et Zamalek.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du massacre de Port Saïd, enfin, j'emprunte les mots des supporters, évidemment, mais au moment de ces morts, il y a eu un mouvement de solidarité entre l'ensemble des groupes ultras du pays, et notamment entre les deux ennemis jurés, qui sont les clubs de Ahli et de Zamalek, qui ont décidé en fait de mettre de côté leur rivalité sportive pour s'engager dans un combat politique pour que la justice soit faite. Et donc il y a eu vraiment cette séparation entre le monde sportif d'un côté et cette lutte politique qui se faisait main dans la main.
Oui, d'ailleurs elle continue cette lutte, hein, puisque assez récemment, je crois que c'était l'année dernière, on a une vingtaine, 19 exactement, supporters de Zamalek qui ont été tués lors de violences avec les forces de l'ordre. C'était pas des violences avec les rivaux de Al-Ahli.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après les événements de Port Saïd, les supporters ont été interdits de stade. C'est toujours une politique qui est d'actualité aujourd'hui. En février de l'année passée, ce qui s'est passé, c'est que les supporters de Zamalek ont voulu rentrer dans le stade et se sont confrontés aux forces de l'ordre et 19 personnes ont perdu la vie. Et de nombreuses personnes ont été blessées après ce clash.
Patrick Mignon, réaction en guise de conclusion.
Je pense qu'on est parti beaucoup sur le hooliganisme avec Marseille. En fait, là, avec l'exemple de l'Égypte, on retombe sur les ultras. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu différent. Les hooligans ont une cause, donc on va dire c'est la violence, c'est la domination de l'espace public à travers leur volonté d'être présents. Les ultras, il y a autre chose qui est la volonté de faire corps dans le stade autour de quelque chose qui regroupe des personnes. Alors, qui effectivement est le club, et qui à ce titre-là peut leur donner, dans certains contextes, le fait d'être à peu près les seuls mouvements sociaux existants dans un pays. Et je pense que là, du côté de l'Égypte, c'est intéressant de voir cette sortie, comme du côté de la Turquie, avec l'histoire de Taksim, où Beşiktaş, Fenerbahçe et Galatasaray se sont unis, alors que c'est très très dur entre eux, ou de l'Ukraine, à Maïdan, où là aussi les supporters ont joué un peu le rôle qui était décrit ici à propos de l'Égypte.
Voilà, peut-être une des différences, justement, c'est que les ultras peuvent à un moment se politiser d'une certaine manière et éventuellement passer des accords, entre guillemets, entre différents groupes a priori rivaux, alors que pour les hooligans, il n'est pas question de politique, il est question purement et simplement de violence.
Pour les hooligans, il y a quelque chose qui est être là, être là.
Merci beaucoup en tout cas à Suzanne Guibril qui était avec nous ce matin en direct et à vous Patrick Mignon, sociologue, je rappelle, auteur de ce livre vert du supporterisme. Merci infiniment.
Avec Nicolas Ourcade et Ludovic Lestrelin.
Qu'on connaît, qu'on a déjà eu à ce même micro. Merci infiniment en tout cas.